ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 23 novembre 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, Zimbabwe, Robert Mugabe ne sera pas poursuivi. Assurance donnée par un porte-parole de la ZANU-PF. Au Tchad, liberté retrouvée pour Laoken Médard, ancien maire de Moundou et candidat à la dernière élection présidentielle. Tradition respectée ici aux États-Unis où les Américains célèbrent ce jeudi la fête de Thanksgiving. Tapis rouge pour Omar El-Béchir en Russie. Le président soudanais a été reçu ce jeudi par son homologue russe. Dans 10 minutes, l'économie et le sport avec Kiabadou et Yakuba Ouidraogo. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe et sa famille peuvent rester dans le pays et ne seront pas poursuivis. Assurance donnée par un porte-parole de la ZANU-PF. Raissa Gironde nous en dit plus.
Une lumière au bout du tunnel pour l'ex-président zimbabwéen. Robert Mugabe s'est vu garantir l'immunité lui permettant de rester dans le pays. Le plus vieux président en exercice de la planète a quitté sa fonction mardi sous la pression de l'armée et de son parti. Une démission historique mettant fin à 37 ans de règne. L'intraitable Mugabe a négocié durant une semaine son départ. Dès le début du processus de transition assisté par l'armée, tout en étant en résidence surveillée, c'est une immunité finalement accordée à celui qui souhaitait la garantie de la sécurité de sa famille. Il souhaitait surtout finir ses jours sur sa terre natale. Robert Mugabe laisse derrière lui une économie bouleversée par ses réformes. Son ancien bras droit, Emmerson Mnangagwa, qui sera investi chef de l'État par intérim vendredi, a su emmener le pays dans une nouvelle ère. Le début d'une nouvelle démocratie.
Au Cameroun, séance plénière mouvementée ce jeudi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés du SDF, le Social Democratic Front, parti d'opposition, ont exigé que le problème anglophone soit examiné en urgence par les députés. Depuis un mois que nous sommes là, on n'a jamais parlé de ce problème, a regretté l'honorable Joseph Banadiem, député SDF, qui a monopolisé la parole, empêchant l'examen des projets de loi du jour. Après une première interruption, les députés du SDF ont entonné un chant disant « Paul Biya, le pays va mal et c'est dans une cacophonie autant pour moi général que les projets de loi mis en examen ce jour ont été adoptés ». Au Tchad, arrêté le 13 juillet pour détournement et usage de biens publics, l'ex-maire de Moundou, Laoken Kourayo Médard, et ses deux co-accusés ont été libérés pour non-respect de la procédure. Yakuba Ouidraogo.
Le juge a ordonné la mise en liberté d'office de Laoken Médard pour détention abusive. Arrivé troisième à la présidentielle d'avril 2016, Médard a été arrêté mi-juillet pour malversation financière. Un mois avant son arrestation, il a été démis de ses fonctions de maire par le conseil municipal de Moundou. L'opposant était soupçonné d'avoir détourné 27 millions de francs CFA à la suite d'un contrôle administratif. Fin septembre, un rapport d'audit demandé par le juge d'instruction a révélé que M. Médard n'avait pas détourné un seul centime dans le cadre de ses fonctions de maire. Dans ce rapport, sur les 45 employés de la mairie cités, seul Laoken Médard n'aurait rien détourné. Le document fait état de plus de 200 millions de francs CFA manquant à la mairie de Moundou.
Le tableau des droits s'est un peu assombri en octobre en RDC, constat des Nations Unies qui mettent en cause principalement les agents de l'État. La charge est lourde contre eux. 8 directeurs et rédacteurs en chef d'un groupe de tabloïds ougandais ont été inculpés de trahison pour la publication d'un article sur l'implication présumée du président ougandais Yoweri Museveni dans un complot contre le Rwanda. L'annonce a été faite aujourd'hui par leur avocat. 6 pirates somaliens présumés ont été transférés aux Seychelles après leur arrestation pour les attaques d'un porte-conteneur et d'un navire de pêche au large du sud de la Somalie, a annoncé jeudi un responsable de prison seychellois. Les suspects, âgés de 16 à 24 ans, sont arrivés jeudi à Victoria. Plus de 500 victimes de traite des êtres humains, dont près de la moitié sont des mineurs, ont été secourus et 40 trafiquants présumés arrêtés lors d'une vaste opération de police dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous apprend Interpol ce jeudi, Bagassi Koura.
Selon la police des polices, l'opération Épervier menée simultanément au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal entre le 6 et le 10 novembre a permis l'arrestation de 40 trafiquants présumés qui seront poursuivis pour, je cite, traite d'êtres humains, travail forcé et exploitation d'enfants. Ils sont accusés d'avoir forcé les victimes à s'adonner à des activités allant de la mendicité à la prostitution, explique Interpol, sans préciser si la majorité était destinée à rester sur le sol africain ou à partir en Europe. Ainsi, une Nigériane de 16 ans qui s'était vue promettre un travail au Mali pour pouvoir envoyer de l'argent à sa famille a été forcée à se prostituer par son parrain pour rembourser ses frais de voyage. L'opération Épervier a été conduite dans le cadre du projet Sahel, une initiative financée par le ministère allemand des Affaires étrangères contre les réseaux de crimes organisés impliqués dans la traite des êtres humains. Elle a été coordonnée au niveau régional par des officiers d'Interpol à travers toute l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun et du siège de l'organisation à Lyon, en France.
Le Rwanda est prêt à accueillir jusqu'à 30 000 migrants africains vivant dans des conditions inhumaines en Libye où une récente vente d'esclaves noirs a suscité l'indignation dans le monde. C'est ce qu'a annoncé hier la chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo. Cette décision intervient à la suite de la diffusion le 14 novembre par la chaîne de télévision américaine CNN d'images montrant un marché aux esclaves en Libye et de l'appel à l'aide lancé par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Dans le même registre, la situation épouvantable des migrants en Libye, dont certains sont vendus comme des esclaves, on l'a dit, ne peut pas durer. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le commissaire européen Dimitris Avramopoulos. Hier déjà, le président français Emmanuel Macron avait qualifié de crime contre l'humanité cette vente des migrants africains comme esclaves en Libye. Pour sa part, l'OHCR, dans un rapport publié aujourd'hui, laisse entendre que les arrivées de migrants en Europe via la Libye ont connu une forte baisse au cours du troisième trimestre 2017. Le nombre de personnes traversant la Méditerranée à partir de la Libye pour arriver en Italie a ainsi chuté entre juillet et septembre, passant de 11 500 à 6 300. Pour un total de 21 700 sur l'ensemble du trimestre. Les Algériens se sont rendus aux urnes ce jeudi pour désigner leurs élus communaux et départementaux dans un contexte socio-économique morose. Pour les 22 millions d'électeurs appelés à se prononcer, les bureaux devraient fermer à 19h. Les résultats officiels sont attendus vendredi. La police égyptienne a abattu 3 extrémistes islamistes et arrêté 9 autres membres de l'Iwa al-Tawara, un groupe ayant revendiqué l'an dernier l'assassinat d'un général de l'armée, selon le ministère de l'Intérieur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Omar El-Béchir demande la protection de Poutine contre les actes agressifs des États-Unis. Une requête formulée ce jeudi par le président soudanais lors d'un entretien à Sochi avec son homologue russe Blanche Sanou.
Sous le coup des mandats d'arrêt international, Omar El-Béchir s'est rendu pour la première fois en Russie, peu après la levée par le gouvernement du président Donald Trump de l'embargo américain. Il a précisé que son pays a besoin d'être protégé contre les actes agressifs des États-Unis. Il a aussi formulé son souhait de renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de rééquiper ses forces armées. Dans ses déclarations, Omar El-Béchir a remercié Vladimir Poutine pour la position qu'il prend dans les affaires internationales. Si la Russie n'était pas intervenue dans la situation en Syrie, ce pays aurait été perdu, a-t-il par ailleurs estimé. Le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Malgré la levée de l'embargo après 20 ans, les États-Unis ont en revanche maintenu ce pays sur leur liste des États soutenant le terrorisme.
Le sort du président syrien Bachar al-Assad pendant une éventuelle phase de transition en Syrie devrait être décidé au cours des négociations attendues entre le régime et l'opposition, a estimé jeudi le parti au pouvoir en Turquie. Avec la Russie et l'Iran, nous cherchons une solution. Si congrès il y a, l'interlocuteur pour Assad sera l'opposition, a déclaré Mahir Ounal, porte-parole de l'AKP, au lendemain d'un sommet sur la Syrie en Russie. La Birmanie et le Bangladesh ont signé un accord sur le retour dans les 2 mois des réfugiés est passé au Bangladesh, où 620 000 Rohingyas ont afflué depuis fin août. Après des mois de pourparlers et une intense pression diplomatique internationale, la dirigeante birmane et le ministre bangladais des Affaires étrangères Mahmoud Ali ont finalement conclu un accord dans la capitale birmane sur le retour des personnes déplacées de l'État Rakhine, épicentre des troubles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekia Badou.
Le milliardaire sud-africain Christo Yez redouble d'efforts pour réunir deux groupes de distribution, Stenoff et ShopRite, afin de poursuivre leur expansion en Afrique. ShopRite domine le secteur de l'épicerie, Star vend surtout des vêtements, des chaussures, des articles ménagers et des meubles. Avec un contrat de près de 27 millions d'euros, la Sénélec, société d'électricité du Sénégal, a retenu le groupe français Vinci Énergie pour la réalisation de 8 centrales photovoltaïques sur 4 grandes régions du Sénégal, les îles du Saloum et la région de Thiès, à l'ouest du pays, ainsi que dans les régions de Tabacounda et de Kolda, à l'est. Le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Côte d'Ivoire, selon le PDG d'Orange. Le groupe de télécommunications se prépare pour une installation d'ici 24 mois dans son nouveau siège social d'Abidjan. La pose de la première pierre a été effectuée mercredi par le Premier ministre Koulibaly pour un coût total d'investissement de 28 milliards de francs CFA. L'Ouganda mise sur le pétrole pour son développement. Dès 2020, le gouvernement espère qu'une manne de 2,4 milliards de dollars par an sortira des champs pétroliers. Dans l'attente de l'or noir, les activités économiques se développent de manière significative dans la région d'Oima, située à proximité de puits. Investisseurs et communautés se préparent à l'arrivée de nouvelles activités et d'une nouvelle population de travailleurs.
Une musique qui ne trompe pas, c'est l'air du sport. Et Yacouba Ouidraogo est dans ce studio. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Alors ce soir, on parle des Ligues Europa.
Tout à fait John, et des matchs sont en cours. Et peu avant la mi-temps, 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Konyaspor de la Turquie. Pour accéder au 16e de finale, l'OM devra gagner et espérer que le Vitória Guimarães ne s'impose. À Salzbourg, pour le moment, le Guimarães mène bien sûr 1-0. Avantage pour Nice avec un retour gagnant de Mario Balotelli, auteur d'un doublé qui permet aux Niçois de mener 2-0 face à Zulte Waregem à quelques minutes de la pause. Un peu plus tard, les Espagnols de Villarreal sont allés s'imposer au Kazakhstan, 2-3 devant le FC Astana. Plus tard, l'Olympique de Marseille fera face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol. L'OL sera qualifié pour les 16e en cas de victoire ou de match nul.
Et puis, Luis Campos supervise la transition du club lillois.
Tout à fait, au lendemain de la mise à pied de l'entraîneur Marcelo Bielsa, Luis Campos, conseiller sportif du président Gérard Lopez, supervisera la période de transition assurée par un staff technique provisoire. El Loco paie les mauvais résultats de son équipe 19e et avant-dernière de Ligue 1. Après une ultime défaite cinglante lundi à Amiens, un autre mal classé, 3-0 en 13 journées de championnat, la formation nordiste a concédé 7 défaites pour seulement 3 victoires et 3 matchs nuls.
Et le Sénégal qui pointe à la première place du classement FIFA Afrique.
Les Lions de la Teranga se sont hissés en tête du classement du mois de novembre devant la Tunisie, l'Égypte, la RD Congo et le Maroc qui complètent le top 5 Afrique. Les Sénégalais profitent de leur deuxième qualification pour la Coupe du Monde pour atteindre le 23e rang mondial, le meilleur classement de leur histoire. Au niveau mondial justement, l'Allemagne reste première. Elle est suivie du Brésil, du Portugal, de l'Argentine et de la Belgique qui referment le top 5 mondial.
Et pour renverser le tout-puissant Mazembe à la Coupe de la CAF, Supersport compte sur son public.
Et oui, John, le club sud-africain a décidé de mener une campagne de séduction. Supersport United prévoit une entrée gratuite au Lucas Moripo Stadium pour tous les supporters qui porteront un t-shirt bleu, couleur du club local. Après la défaite 2-1 lors de la finale aller, une victoire d'un but à zéro face au TP Mazembe suffirait aux Sud-Africains pour monter sur le toit de l'Afrique.
C'était le sport, c'était Yacouba Ouidraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, mise en onde de Sims Lumami. Place à présent à notre dossier spécial Thanksgiving, célébré chaque année ici aux États-Unis depuis 1789. Le quatrième jeudi de novembre, c'est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier américain, où l'on se réunit en famille ou entre amis pour partager le traditionnel repas de l'Action de grâce. Mais d'où vient exactement cette tradition? Petit retour dans l'histoire avec Eric Manirakiza.
La fête de Thanksgiving symbolise l'Action de grâce, une occasion de remercier le bon Dieu pour des récoltes abondantes. Elle est fêtée pour la toute première fois en 1621. Une année auparavant, les premiers Européens débarquent sur le sol du Nouveau Monde. Ce sont des colons venus d'Angleterre. Ils fuient la persécution pour leurs pratiques séparatistes de la religion anglicane. Ils fondent la ville de Plymouth dans l'état du Massachusetts et s'installent. Le premier hiver décime la moitié du groupe de faim, de froid ou de maladie. Les survivants sont conscients que leurs chances de survie sont maigres et décident de collaborer avec les autochtones, donc les Amérindiens. Les deux groupes s'apprivoisent mutuellement et signent un traité de paix. Les Amérindiens leur offrent à manger et leur transmettent leur savoir-faire pour s'acclimater à la région, à pêcher, chasser et démarrer leur plantation de maïs. La chance est avec eux et la première récolte est abondante. Le nouveau peuple d'Amérique invite les autochtones à se joindre à eux pour un repas de fête. C'est la première célébration de Thanksgiving aux États-Unis. Peu après la guerre d'indépendance, le premier président américain George Washington décrète le 3 octobre 1789 le premier jour d'Action de grâce et le fixe au jeudi 26 novembre. Pendant plus de 30 ans, Thanksgiving est célébré à des jours différents. En pleine guerre de sécession, en 1863, le président Abraham Lincoln juge le moment approprié d'en faire une célébration nationale pour réunir tout le peuple américain autour d'une célébration officielle et commune à tous les foyers américains. Il fixe la date au quatrième jeudi de novembre. La tradition perdure encore. Elle est devenue le moment familial où la famille éparpillée dans tout le pays se retrouve pendant 4 jours consécutifs. C'est un chassé-croisé impressionnant d'Américains sur les routes et dans les aéroports. Cette année, plus de 50 millions d'Américains se sont déplacés. Le traditionnel repas de Thanksgiving est composé d'une dinde farcie servie avec une sauce aux herbes et de la purée de patates douces et d'une tarte à la citrouille en dessert. C'est également le mets le plus authentique du premier repas de Thanksgiving des colons de Plymouth.
Bon appétit à ceux qui sont à table. Donc, emboîtant le pas à ses prédécesseurs, le président américain Donald Trump a gracié mardi sa première dinde à la Maison-Blanche à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Sur cette tradition considérée comme étant un peu amusante, voici un reportage de Nicoletta Illick de la VOA, relaté par Jacques Aristide.
L'origine du rituel est incertain. Certains affirment que c'est la clémence du président Abraham Lincoln durant son mandat entre 1861 et 1865 en faveur d'une dinde qui a donné lieu à cette cérémonie du pardon. D'autres indiquent que c'est John F. Kennedy qui fut le premier locataire de la Maison Blanche à se montrer magnanime lorsqu'un volatile lui a été présenté en novembre 1963. D'autres encore maintiennent que ce n'est que depuis George Bush père en 1989 que les présidents ont pris l'habitude d'exercer leur droit de grâce sur une dinde. Edward Lengel est historien attaché à la White House Historical Association.
He had a son named Tad.
Abraham Lincoln avait un fils nommé Ted qui plaisantait avec lui à propos de sa dinde qui se promenait dans les isoloirs le jour du scrutin en 1864. Et Abraham Lincoln lui a demandé pourquoi elle était là. Est-ce que la dinde est là pour voter?
Mais Ted répondit que sa dinde ne pouvait pas voter parce qu'elle était trop jeune.
Par conséquent, Abraham Lincoln devait gracier cette haine et lui éviter d'être tué pour être dégusté à l'occasion de Thanksgiving.
La Fédération nationale des éleveurs de dinde en offre une au président depuis l'époque de Harry Truman après la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le 18 novembre 1963, John F. Kennedy, compatissant, déclara devant la dinde offerte par cette fédération « Nous laisserons celle-là grandir. S'il n'y a aucun document officiel qui peut attester de la grâce présidentielle de Lincoln, celle de Kennedy est solidement documentée. »
Il
faut donc accepter que c'est bien JFK qui a commencé cette tradition, laquelle se poursuit à ce jour.
Mais le président Truman y est également pour quelque chose.
Il y a donc la cérémonie officielle de réception de la dinde à la Maison-Blanche, et je pense que c'est Harry Truman qui fut le premier à présider à cette cérémonie publique.
La légende veut qu'après une journée d'éprouvante exposition médiatique à Washington, l'heureux élu parte couler des jours heureux dans une ferme, loin des appétits humains et de l'agitation du monde. Quant au président, il achète généralement sa propre dinde pour l'incontournable repas de Thanksgiving à la Maison-Blanche, comme c'est le cas dans pratiquement tous les foyers américains.
Alors, dans les foyers américains, donc, Georges Léonard Sagnou a joint des membres de la diaspora africaine qui fête Thanksgiving dans la région de Washington. On écoute.
Je m'appelle Kanye Koulibaly Détmini. Thanksgiving, ça signifie une réunion de famille autour d'un plat pour s'apprécier et resserrer les liens familiaux. Pour moi, c'est ça.
Salut, je m'appelle Étienne Yonli. Pour moi, Thanksgiving, c'est au fait une fête de reconnaissance envers le Créateur. La première fois que j'ai pris connaissance avec cette fête, c'était à Ouagadougou avec des amis américains et chacun devait à tour de rôle dire il était reconnaissant. Connaissant de quoi dans sa vie. Donc, la famille, les gens participent. Et le jour, généralement, c'est le papa qui coupe le dindon. Et on partage les plats sucrés. Les gens sont vraiment contents. C'est vraiment magnifique.
Je suis Safia Touba. Thanksgiving, pour moi, c'est d'abord une fête américaine, c'est-à-dire une occasion de passer du temps avec sa famille et ses amis. Et en même temps, remercier cette dame de faire partie de ta vie, de leur soutien. En fait, ce n'est pas une fête commerciale, c'est une fête de retrouvailles. Et le plus important, c'est ça.
Mon nom, c'est Pepe Boum. Pour moi, Thanksgiving, c'est une fête très, très importante d'abord pour les Américains. C'est plus important même que le Nouvel An. C'est une fête de reconnaissance. Et le but, c'est d'être reconnaissant à Dieu.
Christian Mukuna Boacha. Spécialement pour les Thanksgiving de cette année, évidemment, nous sommes invités dans une famille américaine. Nous allons y partir avec le repas africain, spécialement le repas congolais. Nous avons songé à préparer les makayabu, les poissons salés, et les préparer à la mode congolaise. Nous préparons les mbinzo, qu'on appelle les chenilles. On va y ajouter du riz. Mon épouse prépare également les beignets et il fait les cakes à la mode congolaise. On assemble avec toutes ces choses, avec un peu de la boisson aussi.
Je suis Lamine Condé. Alors, je ne suis pas historien, mais cette fête est fêtée chaque quatrième jeudi du mois de novembre de chaque année. Ce jour-là, dans chaque famille, il y aura à manger. Chaque famille va inviter d'autres familles pour venir partager ce que la famille a eu pendant l'année.
Je m'appelle Mamadou Ba. On célèbre la fête de Thanksgiving souvent avec les amis, en famille. Et puis on se retrouve, on mange, on discute. Puis des fois, on va chez des amis américains, comme chaque année. C'est une très bonne tradition parce que ça nous rappelle les fêtes de chez nous, comme la fête de Tabaski.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Notre correspondant à Dakar, Sedina Habagé, s'est quant à lui approché de la communauté américaine pour savoir comment elle célèbre l'action de grâce dans la capitale sénégalaise. Dakar, reportage. Quelques soucis avec cet élément de Sédina. On va aller au Cameroun, dans la région de Garoua, dans le nord du pays, pour parler de l'élevage des dindons. Notre guide, c'est Joël Honoré Kouam, des productions GAP.
Les dindons peuvent être profitables pour des petites fermes. Beaucoup d'éleveurs laissent leurs dindons vivre à l'extérieur dans un grand enclos clôturé. Pour une douzaine de dindons, il faut au moins 2 gallons d'eau par jour. Lorsque vous élevez des dindons, il est important de prévenir les problèmes de santé avant qu'ils ne surviennent, avec des pâturages propres, de l'eau fraîche et propre et de la nourriture. Les dindons sont connus pour être des oiseaux colorés et charismatiques. Adamou Maïdoja et Mohamedou sont des éleveurs de dindons au nord du Cameroun.
J'ai fait cet élevage depuis plus de 3 ans. Donc j'ai commencé à faire ça depuis 2014. Non, moi, donc, ça me plaît. Pourquoi avec? Parce qu'il y a de l'esthétique sur ça. Parfois, quand le mâle, il commence à danser, donc il y a de l'esthétique sur ça.
Les dindons sont des oiseaux originaires d'Amérique. Ils sont parmi les oiseaux les plus distinctifs et reconnaissables originaires de l'Amérique du Nord. Et pour beaucoup d'Américains, l'un des plus aimés comme la pièce maîtresse du repas de Thanksgiving. Ces éleveurs africains qui se sont lancés dans l'élevage des dindons sont prêts pour les défis qu'ils rencontrent pour élever ces oiseaux.
Non, parce que c'est pas du tout facile, ça demande du travail, ça demande aussi des moyens financiers, donc il y a beaucoup de paramètres.
Adamou a commencé l'élevage de dindons avec 2 dindons. Aujourd'hui, il en a plus de 10. Il espère faire croître son entreprise encore plus loin, petit à petit. Il s'attend également à faire de bons profits durant les fêtes de fin d'année.
Comment les Américains eux-mêmes fêtent-ils la journée de l'action des grâces? Raïssa Girondin et Trésor Matondo ont tendu le micro à des résidents de la capitale, Washington.
Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving is a big deal. Ça, c'est un bon truc que les gens font. Nous, on va faire une fête le jour, là. On va aller chez un grand frère, là. On va aller faire la fête là-bas, tout simplement. Ça va être la fête, vraiment. Ouais, la plupart des gens fêtent le jour, hein. Les fêtes, yeah. Il y a le turkey, il y a tout, surtout les nourritures locales. Genre, nous, quand même, on fait quand même des trucs qui viennent de chez nous. Le jour de Thanksgiving, par exemple, il y a toutes sortes de nourritures comme le riz, le tour, certains trucs que vraiment les Américains ne connaissent pas. Nous, on fait ça. So, c'est intéressant quand même.
Thanksgiving represents to me its family.
Ce que représente Thanksgiving pour moi, c'est la famille. Chaque année, ma famille se réunit et chacun prépare un plat. On les emmène tous. J'ai un héritage hispanique, donc je fais un mélange de nourriture américaine et mexicaine. C'est juste un moment où on s'assoit et on prend des nouvelles de tout le monde. Ça se produit qu'une fois dans l'année. Un moment où on n'est pas obligé d'acheter un cadeau comme Noël. Ça fait juste du bien d'être avec les membres de sa famille et d'avoir tout cet amour autour de soi. Parce que les avoir autour de moi me prouve à quel point je compte pour eux.
Maintenant, on a l'habitude de célébrer Thanksgiving. Même si ces dernières années, je n'ai pas pu le célébrer parce que je travaille de l'ouverture jusqu'à la fermeture. Notre magasin ouvre à 5 heures du matin et dure toute la journée. Chaque année, nous travaillons comme ça. J'ai découvert Thanksgiving quand je suis venue dans ce pays, il y a 22 ans à peu près. Ça représente toutes les bénédictions que nous avons reçues ici. Et aussi, c'est un rappel pour penser aux personnes défavorisées.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Mise en onde par Sims Lumami, Justin était à la console. Présentation John Linden, merci à toute la rédaction. Très bonne fête de Thanksgiving à toutes et à tous.